Le texte que nous allons commenter se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, versets 2 à 4, puis 9 à 14. En voici la lecture. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et il disait « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. » Ah, livre qui a la réputation d'être difficile, le livre d'Apocalypse. Mais il suffit de certaines connaissances historiques et de quelques clés de lecture pour que son message central s'ouvre. Et surtout, il faut une bonne ouverture d'esprit pour ne pas céder à la tentation de trouver des choses sulfureuses. Car bien des sectes l'ont utilisé pour se faire des théories et des doctrines bien farfelues. Je pense notamment aux témoins de Jéhovah qui prennent vraiment à la lettre le chiffre de 144 000, pensant que ce sont vraiment les élus qui régneront au ciel avec le Christ, sur la terre où les autres élus auront un paradis au rabais, sur une terre qui sera transformée en vaste club med. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tout ça. Alors il me paraît important, ici, à travers ce texte, de vous montrer ce qu'on pourrait appeler une bonne interprétation biblique. Il y a d'abord le sens dit littéral, qui n'est pas à confondre avec le sens fondamentaliste, comme les témoins de Jéhovah qui vont lire à la lettre 144 000 élus. Donc le sens littéral, qui est d'ailleurs appelé aussi historique à juste titre, parce qu'il nécessite une connaissance de la composition du texte et du contexte dans lequel le texte a été écrit. C'est ce que nous allons voir pour l'Apocalypse. Et puis, ça c'est le premier degré d'interprétation. Et puis après, il y a l'interprétation spirituelle qui prend appui sur l'interprétation historique. Donc cette interprétation spirituelle est ouverte évidemment au symbole et va encore plus profondément. Je ne sais pas si vous avez écouté d'autres enregistrements, mais comme vous allez le voir, l'interprétation spirituelle est composée en fait de 3 degrés d'interprétation. Nous allons voir les 3 degrés. Mais ce qu'il est important pour vous de savoir quand vous tombez sur un texte biblique, c'est bien de le méditer dans la prière, et il y aura des interprétations qui vont se faire jour assez spontanément, du moment qu'elles ne contredisent pas la raison et le message central de la Bible, qui est l'amour de Dieu pleinement manifesté en son Fils, du moment qu'elles ne contredisent pas vos interprétations personnelles, donc si elles sont vraiment guidées par l'Esprit dans un esprit de prière, elles ne le contrediront pas. Disons du moment que ces interprétations ne contredisent pas aussi la doctrine de l'Église, qui est en fait l'interprétation biblique de plus de 2000 ans, 2000 ans de maturation de l'interprétation guidée par l'Esprit. Du moment que votre interprétation personnelle ne contredit en rien l'interprétation de l'Église et les dogmes essentiels, enfin les dogmes tout court en fait, eh bien votre interprétation est légitime. Et puis après, il est utile de se souvenir des quelques clés de lecture spirituelle, enfin en fait au nombre de 3, pour aller découvrir des messages qui vous sont insoupçonnés et qui pourront vous aider. Je vais essayer de vous le montrer à travers ce commentaire. Mais tout d'abord, il est intéressant, soit après votre méditation personnelle, si jamais vous n'avez pas eu de difficultés avec le texte, ou avant, si jamais le texte vous paraît choquant ou complètement obscur, vous pouvez d'abord commencer par l'analyse historique ou historico-critique. Alors moi, je vais commencer par cette analyse pour après aller dans l'analyse spirituelle. Alors le message littéral ici est un message historique. Il est intéressant de savoir ceci. Donc, écrit en période de crise, une première édition après la persécution de l'empereur Néron en 64, et une seconde édition plus complète à l'approche des persécutions de Domitien vers 95, l'Apocalypse veut répondre à l'angoissante question des chrétiens de cette époque. Jésus-Christ a-t-il réellement vaincu le mal? L'auteur s'appuie sur les événements contemporains pour montrer que l'Empire romain persécuteur, qui représente les forces du mal liguées contre les chrétiens, court à sa ruine. Par contre, le peuple de Dieu, ses hommes et ses femmes et ses enfants, que la persécution n'a pu ébranler dans leur foi, porte en lui l'espérance de l'humanité, celle d'une victoire définitive de l'amour sur la haine, du pardon sur la vengeance, de la justice sur l'oppression des consciences. Alors comment l'auteur pourra-t-il faire circuler, un tel livre en échappant à la censure impériale? En écrivant ce livre comme une pièce de théâtre, dont la scène est tantôt sur terre, tantôt dans le ciel, où les acteurs ont des masques symboliques, le Christ a celui de l'agneau, qui enlève les péchés du monde, et des costumes évocateurs, le blanc dont sont vêtus les martyrs, et les palmes qu'ils brandissent, sont signes de leur victoire sur le mal. Donc un livre où les chiffres eux-mêmes sont symboliques. Le chiffre parfait de 144 000 montre la sainteté du nouveau peuple de Dieu, venant remplacer les 12 tribus du peuple juif. Ce système de camouflage traditionnel dans la Bible rend le livre de l'Apocalypse difficile à lire et favorise, comme je l'ai dit, les interprétations fantaisistes des sectes religieuses. Mais il n'ôte rien à l'actualité du message de l'Apocalypse. Courage, les saints sont des hommes comme nous qui ont cru que l'amour était plus fort que tout. Leur victoire, c'est déjà la nôtre en attendant le triomphe définitif du Christ sur le mal. Alors, comme vous le voyez, c'est important de savoir que ce livre a été écrit en période de persécution et que, vu le contexte difficile, il y avait des codes très courants, vous le retrouvez aussi dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, dans toute la veine apocalyptique qui traverse certains livres bibliques. Donc vous trouvez ces camouflages, mais il ne s'agit pas de les prendre à la lettre ou de chercher des significations trop compliquées, voyez. Alors avec ce système de camouflage, eh bien, les récits pouvaient circuler sans être, sans être source d'avantage de persécution. Donc c'était un système de code, de codage et de protection. Mais le message finalement est assez clair. Donc et c'est là où on va que l'analyse historique et littérale va rejoindre une autre interprétation spirituelle, qui est l'interprétation dite anagogique, comme on va le voir. Mais ici, donc, le message, c'est que les chrétiens sont en but à la persécution, que l'esprit du monde est opposé à l'esprit du Christ, et que les chrétiens vont devoir souffrir, mais que s'ils tiennent bon dans leur vie de prière et dans leur amitié à l'agneau, donc le Christ, eh bien, la victoire est assurée. Alors, je propose de commencer par l'interprétation, généralement par laquelle on termine. Alors, l'interprétation dite anagogique est une interprétation qui consiste à lire le texte avec comme vision la vie éternelle et le ciel. Alors ici, on commence par là parce que il est évident que le texte, dans sa littéralité, concerne cette vision anagogique. Alors là, le message, je vais d'abord le lire, relire le passage linéairement avec cette idée d'interprétation anagogique et nous allons le voir. Et puis après, je relirai le texte avec les autres interprétations en vue. Alors moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Alors ici, c'est intéressant parce que l'ange qui monte du côté du soleil, le soleil est aussi un symbole du Christ et de Dieu. Nous sommes un peu comme ces anges. D'abord, nous sommes comme Jean. Nous devons avoir la vision. Nous devons vraiment regarder le monde avec la vision, avec des yeux différents de la vision matérialiste et très engluée dans la vie matérielle. Non pas que cette vie ne soit pas importante, mais cette vie se vivra mieux si nous avons vraiment les fins dernières en tête, si nous avons le but final en tête. Et ici, Jean, donc, est un homme de vision. Il voit la vision Et il est intéressant de voir que Jean commence sa vision en disant « moi, Jean ». Ce n'est pas parce que nous avons le ciel en vue, et souvent les gens ont l'impression qu'au paradis on ne sera pas soi-même. Donc ce n'est pas parce que nous avons une vision différente que nous ne sommes pas nous-mêmes. L'originalité de la foi chrétienne, c'est que nous n'allons pas à Dieu par fusion comme l'hindouisme ou le bouddhisme, où nous nous perdons après des personnalisations successives que sont les réincarnations, la dépersonnalisation finale étant la fusion avec la divinité qui elle-même est une espèce de tout informe. La foi chrétienne, c'est une divinisation par communion avec Dieu, à l'image du Fils qui communie pleinement au Père. Et c'est en ce Fils nous sommes divinisés. Alors c'est pour ça que nous pouvons dire « moi Jean ». Ce n'est pas parce qu'au paradis nous serons débarrassés de ce qui finalement ne fait pas notre personnalité, qui est nos défauts et notre péché, qui en fait se nuisent à notre personnalité et ne l'enrichissent pas. Ce n'est pas parce que nous serons débarrassés de ce vieux vêtement que sont nos défauts que nous ne serons pas nous-mêmes. Eh bien, de même, ce n'est pas parce que nous nous convertissons au Christ, que nous suivons Jésus, que notre personnalité est mise sous le boisseau, est étouffée. Au contraire, elle est enrichie et elle se déploie pleinement. La foi chrétienne, c'est vraiment notre personnalité qui a l'occasion de s'épanouir pleinement et nous devenons vraiment nous-mêmes en Jésus. Cessons de croire que la foi chrétienne est quelque chose qui va amputer notre liberté. Moi, Jean, souvenons-nous bien de cette parole. Alors Jean voit un ange. Donc un ange, c'est un messager. Nous sommes un peu comme cet ange. Notre rôle, c'est vraiment de regarder du côté du ciel. C'est un peu de monter du côté du soleil. Notre rôle à nous chrétiens, c'est d'être du côté du soleil, de monter vers le soleil, d'élever notre prière vers le soleil. Ça me rappelle un passage d'un psaume, d'ailleurs repris dans l'Apocalypse avec la prière des saints, où l'encens monte vers le ciel, symbole de la prière. Eh bien, nous sommes comme cet ange, par notre prière, nous sommes un ange qui monte du côté du soleil, du côté du Christ, du côté de Dieu. Donc j'ai vu un ange qui est monté du côté où le soleil se lève, l'Orient, c'est là où on dit que le Christ reviendra, symbole du Christ, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Nous, chrétiens, à l'image de cet ange, précisément parce que nous regardons du côté du soleil, nous avons ce sceau qui marque ce sceau du Dieu vivant. Quel est ce sceau? C'est notre vie de foi et notre prière. Dieu nous a donné par notre baptême le pouvoir, la puissance d'amener des gens à lui. C'est ce que disait Jésus aux apôtres. À Pierre, je te ferai pécheur d'homme. Nous avons ce pouvoir. Eh bien, comment pouvons-nous amener des gens à Dieu? Comment pouvons-nous faire qu'ils soient pleinement heureux, que leur personnalité se déploie pleinement en Dieu? Eh bien, c'est en regardant du côté du soleil et en imprimant ce sceau. Tout ça, le sceau et le côté du soleil où nous regardons, où nous montons, c'est la prière. Nous, chrétiens, par la prière et par notre témoignage nourri dans la prière, par la qualité de notre vie qui va se faire témoignage et éventuellement par notre témoignage en parole, nous avons ce pouvoir de marquer le monde du sceau du Dieu vivant. Donc d'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous sommes appelés à vivre en ce monde. Les quatre anges qui dévastent, c'est un petit peu le symbole de Dieu qui respecte la liberté du monde et le laisse livrer à lui-même, le laisse livrer à sa liberté folle qui est de refuser son amour. Et donc, c'est pour ça que la vie est si difficile pour les hommes. Les hommes sont plongés dans un monde sans Dieu, victimes de leur propre liberté, de leur propre orgueil. Et nous, chrétiens, nous n'échappons pas à ce cycle infernal parce que nous sommes envoyés pour vivre dans un monde qui utilise sa liberté pour refuser Dieu. Il faut y être préparé justement par la prière. N'oublions pas de prier avant d'être envoyé dans ce monde dévasté par les quatre anges, symbole ici de la plénitude de la liberté que Dieu laisse à l'homme avec toutes ses conséquences. Ça ne veut pas dire que Dieu est indifférent au sort de l'homme. Bien évidemment que non, autrement il n'enverrait pas son Fils. Il n'enverrait pas des disciples relais de l'amour de son Fils pour essayer de les ramener à lui. Dieu est triste de ce qui se passe en ce monde, mais Dieu nous laisse pleinement libres. Donc, continuons cette interprétation. Donc, ici, vous voyez, nous crions aux quatre anges nous avons ce pouvoir d'agir sur ce monde infernal, sur ce monde dont la liberté l'a rendu prisonnier de lui-même, prisonnier du mal, coupé de Dieu. Eh bien, nous avons par notre voix forte, par notre vie de prière et notre regard du côté du soleil, nous avons ce pouvoir de nous immiscer dans ce cercle infernal, de faire rentrer la grâce. Et j'entendis le nombre de ceux, je reprends le texte, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Trop souvent, nous croyons que notre vie, que notre témoignage, que la foi chrétienne, que le message de l'Église, le message du Christ donc, a bien peu d'impact, et que c'est une bataille perdue. Mais sommes-nous convaincus que si nous avons l'espoir, si nous avons ce regard spirituel porté vers Dieu, eh bien que le monde a soif de Dieu. Voyez, nous pouvons marquer du sceau. En fait, le but de Dieu, c'est de marquer du sceau l'humanité tout entière est faite pour être marquée du sceau de Dieu. Personne n'est suffisamment hostile à Dieu pour le refuser définitivement après que nous ayons prié et aimé cette personne. C'est très très important. Et ici, le chiffre de 144 000 est symbolique. C'est 12 fois 12, donc la perfection de la perfection multipliée par la plénitude, 1000. Donc effectivement, soyons-en convaincus, si vraiment nous sommes des êtres de prière, des témoins ancrés dans la prière et dans l'amour de Dieu, qui vivons cet amour de Dieu, parce que nous vivons d'une relation personnelle à Dieu, eh bien notre amour et notre prière va déborder tellement qu'il va toucher les gens. C'est très important de nous en souvenir. Et ça aura un impact bien au-delà de nos espérances, parce que ça aura un impact parfait, 144 000. Et après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs avec les palmes à la main. Alors ici, vous voyez, le but de Dieu, c'est que non seulement il y ait une plénitude, que le monde soit sauvé en plénitude, mais aussi le nombre. Tout le monde est appelé et il y a une grande diversité. Nous ne devons exclure personne du salut en les jugeant bien trop vite comme étant inaptes à l'écoute de la parole ou comme étant irrécupérables. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est bien pour ça que plutôt que de nous décourager, de baisser les bras ou de juger avec amertume, nous sommes appelés à être des êtres d'espérance, d'amour et de prière pour ses frères. Et il proclamait d'une voix forte. Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit, « Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements et ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. » C'est là où l'interprétation anagogique, donc centrée sur le ciel, va prendre toute son ampleur. Nous avons une vision de ce que le ciel et de ce qu'est notre vie sur terre comme étant un prélude à notre vie du ciel. Donc ces gens que nous sommes appelés à sauver, nous-mêmes, eh bien, à quoi sont-ils appelés? Ils sont appelés à adorer Dieu sur son trône et l'agneau. Pourquoi mettre Dieu et l'agneau? Bien sûr, il y a le Père et le Fils, donc pleinement Dieu, l'un l'égal de l'autre. Et c'est intéressant parce que c'est par l'agneau que nous sommes invités à adorer Dieu, toujours dans la Bible et notamment dans l'Apocalypse. Pourquoi? Eh bien parce que le Fils, c'est celui qui est engendré de toute éternité du Père. C'est le Père qui a cet élan d'amour vis-à-vis de l'extérieur et qui engendre forcément, car l'amour engendre forcément quelque chose de vivant et de libre, et en Dieu c'est encore plus vrai que partout ailleurs, eh bien cet amour de Dieu se fait personne, et cette personne il la laisse pleinement libre, c'est le Fils. Et le Fils à l'image de la perfection du don du Père, est celui qui sait se recevoir du Père, qui sait se modeler et se laisser aimer par le Père, comme nous sommes appelés nous à nous laisser modeler comme Jean, par communion à nous laisser diviniser. Et c'est important de nous en souvenir, Parce que justement, c'est par ce Fils que nous rentrons dans la communion de la Trinité. Nous sommes appelés à être comme le Fils, à nous laisser aimer. Alors, ayons cette relation avec Jésus, apprenons de lui la relation vraie avec le Père, apprenons de lui à nous laisser aimer par Dieu, à recevoir tout de Dieu, et après à l'aimer en retour. Alors nous n'aimerons pas pour nous justifier ou pour gagner notre paradis, mais simplement parce que nous sommes reconnaissants de l'amour gratuit de Dieu. Donc c'est par le Fils que nous avons accès à la divinité. Donc c'est bien non pas par fusion, mais par communion. Nous sommes appelés à communier au Père dans le Fils qui communie au Père. Eh bien, cette communion, le texte nous dit que sur terre, nous sommes appelés à déjà la vivre. Eh bien, comment ? Commençons par la fin. Ici, donc l'ancien répond à Jean qui dit « Moi, je ne sais pas qui sont ces gens, donc ces martyrs. Ils viennent de la grande épreuve. » Alors évidemment, l'interprétation littérale, c'est les persécutions chrétiennes. Mais plus largement, c'est la vie qui est une épreuve, parce que comme je viens de le dire, la vie est sous le joug du mal, comme la Bible dirait, de Satan. Et donc nous sommes dans une vie qui est fermée à Dieu, et nous devons vivre cette vie fidèle à Dieu, c'est ça l'épreuve. Et nous devons laver notre vêtement dans le sang de l'agneau. Nous devons rester fidèles à notre Dieu, malgré l'environnement peu favorable qui ringardise la foi chrétienne, qui nous tente, et qui nous appelle un bonheur immédiat et superficiel. Si nous vivons en fidélité avec l'agneau, eh bien, nous aurons remporté le vêtement, nous aurons remporté la grande épreuve, nous irons prolonger notre communion déjà commencée sur cette terre par une communion pleine et entière avec notre bien-aimé. Alors ici, remarquons que on parle de laver son vêtement et d'être purifié dans le sang de l'agneau. Sur terre, comme au ciel, cette communion avec Jésus est le centre de notre foi. Qu'est-ce que la foi chrétienne, avant d'être une doctrine ou une morale, c'est avant tout une relation personnelle avec le Christ. Et cette relation personnelle est bien loin d'une relation éthérée ou superficielle, elle est scellée par le sang, c'est-à-dire par l'amour, par les tripes. Nous devons aimer Jésus avec nos tripes, avec notre vie tout entière, avec passion, comme lui nous a aimés dans sa passion, et qu'il a payé de son sang son amour pour nous. Nous devons vraiment nous laver dans le sang de Jésus, c'est-à-dire nous devons vraiment faire de cette relation personnelle avec notre Dieu, avec le Christ, le centre de notre vie. Nous devons nous investir pleinement. La foi chrétienne n'est pas une foi qui se contente de quelques prescriptions. C'est un petit peu le problème de l'islam. C'est vraiment quelque chose qui engage toute notre vie. Alors, ensuite, le texte donne d'autres indications, sinon montons à rebours. Comment s'entretient cette relation avec Jésus? Eh bien, la réponse, elle est donnée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour du trône, il y a les anges, mais dans un espace plus resserré, pour bien montrer la communion avec l'agneau, et à travers l'agneau avec le Père lui-même sur le trône, eh bien, il y a d'abord les anciens, les quatre vivants. Alors voilà où est le symbole. Mais il n'est pas très difficile de voir ce que ça peut symboliser. Alors, d'abord, les quatre vivants, c'est bien évidemment l'évangile et les quatre évangiles. Et c'est pas une interprétation que je fais très personnelle, puisque vous avez peut-être déjà remarqué sur certains parvis de cathédrales ou sur certaines colonnes dans les cathédrales ou sur certaines gravures que les quatre évangélistes étaient représentés comme des animaux. À Marc le lion, Jean l'aigle, le taureau c'est Luc et Matthieu c'est l'homme. Homme plus ou moins homme animal, hein. Voyez? Alors cette interprétation vient de ce livre de l'Apocalypse, elle vient aussi d'Ézéchiel, etc. Mais ce qui est important, c'est que ici Saint Jean, ou un autre auteur, mais disons Saint Jean pour être plus simple, lui, il voit dans les quatre vivants, parce qu'après vous, dans d'autres passages d'Apocalypse, on les représente un peu comme des animaux, ces quatre vivants, eh bien, il fait l'analogie avec les quatre évangiles, parce que déjà à l'époque où a été écrit l'Apocalypse, les évangiles les plus connus avant que le canon de l'Église soit arrêté étaient bien sûr les quatre évangiles que nous connaissons maintenant. Donc, comment vivre de l'amour du Christ? Eh bien, c'est par la lecture de l'Évangile et plus largement du Nouveau Testament. Mais c'est aussi les anciens. Alors les anciens, ça symbolise D'abord, les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc il ne suffit pas de lire le Nouveau Testament, mais il faut aussi lire l'Ancien Testament. C'est toute la Bible qui nous permet de vivre notre foi au Christ. Toute la Bible. Je reviendrai à cette interprétation quand nous traiterons l'interprétation allégorique. C'est aussi les quatre vivants, donc ici plus largement le symbole de la Bible, la parole de Dieu. Et les anciens, c'est déjà dans l'Église, dans l'Ancien Testament et dans l'Église primitive, c'est un petit peu le rôle des évêques. C'est donc toute la tradition qui est symbolisée. C'est donc par la tradition et la parole de Dieu, et donc par la prière, comme nous avons vu au début du texte, que notre relation à Jésus va se maintenir vivante. Et c'est ainsi que nous pourrons traverser la grande épreuve, fort de notre amitié avec Jésus. Et donc, comme vous le voyez, l'interprétation anagogique nous montre que nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu et avec nos frères, que cette communion commence dès maintenant grâce à des instruments qui nous sont donnés, qui sont la prière, la parole de Dieu et la tradition, et donc l'enseignement de l'Église. Et si nous concluons cette interprétation, nous voyons que le monde entier est appelé, que c'est un message d'espérance, que le chrétien est celui qui, justement par sa vie, par sa fidélité à son Seigneur et à sa vie spirituelle, par sa prière, est appelé à justement, comment dire, à convertir le mal, j'aime pas le mot convertir, disons à attraper le maximum de poissons pour reprendre l'image de Jésus. Nous sommes appelés à amener le maximum de gens, justement, dès cette terre à cette vie spirituelle et à la vie du ciel. C'est nous sommes cet ange qui avons le pouvoir de marquer du sceau. Nous sommes cet ange qui avons le pouvoir d'amener des gens à Dieu par notre vie de fidélité au Seigneur, à notre vie de prière, et qui doit se traduire par une vie d'amour de qualité, signe et fruit de notre vie spirituelle, ancrée dans la parole de Dieu, la tradition et la prière. Eh bien, si nous vivons comme ça, eh bien, nous amènerons les 144 000 élus, tous ces gens de toute race. Si, c'est aussi un message pour l'Église. Elle doit être fidèle, non pas à un pouvoir politique. Elle ne doit pas se laisser tenter par les valeurs du monde, comme elle a si souvent fait dans l'histoire, mais elle doit revenir à la source, son Seigneur, une vie de prière, ancrée dans la parole de Dieu. Eh bien, comme ça, elle rassemblera les peuples et alors toute l'humanité pourra être sauvée. C'est le message central, littéral et anagogique. Maintenant, je vous propose l'interprétation allégorique que nous avons déjà abordé plus ou moins. L'interprétation allégorique est centrée sur la parole de Dieu elle-même. Elle part du principe que la Bible nous enseigne comment la lire, notamment en voyant le Christ comme son centre. Alors, relisons un petit peu ce texte avec cette interprétation en tête. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le ciel se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Eh bien, quand nous abordons la parole de Dieu, il faut l'aborder comme l'ange, en regardant du côté du soleil, en s'élevant par la prière. Il faut toujours commencer la lecture de la parole par la prière. Il faut se mettre en condition. Alors j'aime beaucoup l'office des heures, hein, les laudes, etc., les vêpres, parce qu'elle nous met en condition avant de lire la parole. D'abord dans un lieu, et puis on récite des hymnes, des psaumes, on se met en condition. Comme Moïse qui enlève ses sandales pour voir le buisson ardent. Comme le temple est plus loin dans l'histoire, comme le tabernacle et la tente de la rencontre, où il y avait différents paliers avant d'arriver au Saint des Saints. Eh bien, nous-mêmes, nous devons traiter la parole de Dieu avec respect. La traiter avec respect, c'est se mettre en condition spirituelle pour recevoir son message et la méditer. Nous devons prier. Nous devons vraiment croire que la meilleure façon d'aborder la parole, c'est de prier. Et non pas l'ouvrir et la lire comme un livre comme un autre. Autrement, ce n'est pas une lecture priante et croyante de la parole. Et nous raterons beaucoup de choses. Et le message biblique nous restera toujours obscur, comme de nombreuses pages de ce livre, alors que par la prière, beaucoup de choses s'éclaireront d'elles-mêmes. Alors d'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors si on continue cette interprétation allégorique, eh bien, nous allons rentrer dans la méditation, nous allons avoir des difficultés de concentration, des paroles qui nous paraissent obscures, nous allons devoir nous coller parfois au texte. Mais avant de rentrer dans la méditation et parfois de rencontrer des difficultés, n'oublions pas de nous marquer du sceau. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Comment marquer du sceau notre méditation? Eh bien, comme je viens de le dire, en montant du côté du soleil Et vraiment, c'est ainsi que nous imprimerons la marque de Dieu avant de nous plonger dans la méditation. Alors évidemment, c'est à prendre au sens symbolique ici. Il ne s'agit pas de dévaster proprement, à proprement dit. Mais cela évoque, si vous voulez, ces quatre anges, la difficulté qu'il peut y avoir à méditer la parole. Ça me rappelle aussi un texte de la Genèse où Abraham sacrifie, fait un sacrifice, symbole de sa prière, qu'il y a des corbeaux et il est obligé de les chasser. C'est un peu les difficultés que nous avons quand nous lisons la parole, de concentration. Le texte lui-même peut nous paraître obscur, des distractions. Eh bien, bien sûr, nous allons être confrontés à ça, mais avant, hein, nous devons crier aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre, ces anges qui sont symboles ici des difficultés qu'il y a inhérentes à méditer, à s'approcher de Dieu en méditant sa parole, hein, aussi la distance entre le texte biblique et nous-mêmes, parce que c'est pas la même époque. Eh bien, nous devons crier, donc ne dévastez pas, etc., avant que nous ayons marqué notre méditation, si vous préférez, le front des serviteurs de notre Dieu, avant que nous ayons marqué notre méditation du sceau de la prière. C'est important, c'est une façon de voir le texte qui ne le trahit pas, bien au contraire. Alors, continuons, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ah oui, avant, juste. C'est aussi un engagement. Parce que quand nous regardons du côté du soleil, et être marqué du sceau, c'est prier et faire l'engagement d'avoir une lecture priante et spirituelle de la parole. Bien sûr, nous avons l'interprétation littérale, comme je viens de le faire il y a peu de temps, l'interprétation historique qui elle-même véhicule un message spirituel. Mais nous devons être conscients que l'Esprit nous appelle à aller plus loin, à rendre ce texte plus actuel pour notre vie, justement en nous mettant à son écoute. Et ainsi, non seulement avec l'interprétation historique, nous arrivons à voir l'intention de l'auteur humain du texte, mais avec l'interprétation spirituelle, en acceptant de nous laisser guider par l'Esprit, en montant du côté du soleil, eh bien, nous allons voir que l'interprétation divine peut aller plus loin que l'interprétation humaine de l'auteur. C'est aussi cet engagement, cette tournure d'esprit que nous devons avoir. Donc, je continue, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs avec des palmes à la main. Eh bien, si nous voulons avoir toutes les richesses pleines de l'Écriture, un peu ces 144 000 élus qui expriment la plénitude, si nous voulons qu'un passage biblique nous nourrisse pleinement, nous révèle tous ces secrets, que nous puissions pénétrer en profondeur ce message, qu'il devienne une véritable nourriture, que la foule de sens du texte, cette foule immense, si nous voulons vraiment goûter à cette richesse de la parole de Dieu, à cette plénitude, eh bien nous devons, justement comme je viens de le dire, rentrer dans la parole dans un esprit de prière, avec en vue la lecture spirituelle de la parole. C'est un peu ce symbole. Si nous restons à une lecture fondamentaliste, à la lettre, et nous refusons d'entrer dans un esprit de prière où nous nous laissons choquer par un manque d'humilité devant la parole, et nous refermons le livre, eh bien, nous n'aurons pas cette richesse, cette foule immense de toute race, cette diversité du message biblique qui va venir nous nourrir. Alors, après, continuons, et il proclamait d'une voix forte, donc les gens qui étaient élus, le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. Alors, une véritable lecture est centrée sur Dieu et l'agneau. Elle se fait contemplative. Le but de la Bible, c'est de nous révéler quelque chose de Dieu et de son Fils Jésus. Jésus est le centre des Écritures. En trouvant Jésus, à chaque page des Écritures, nous trouverons Dieu. Il faut avoir ce regard. Mais nous allons le voir tout à l'heure. Cela, on peut un peu expliciter ce que je viens de dire. Donc tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu, et disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Ici on continue. La véritable lecture de la Bible est une lecture de louange contemplative. Il ne s'agit pas de juger Dieu à travers un texte parce qu'il nous paraît choquant. Il s'agit de trouver dans la parole de Dieu une occasion de louer Dieu pour son amour. Nous allons voir tout à l'heure comment on peut arriver à ça. Mais souvenons-nous que Jésus lui-même nous donne une clé. Il dit que les deux plus grands commandements de la parole, c'est aimer Dieu et son prochain. Il dit en Matthieu chapitre 22, me semble-t-il verset 34, c'est à vérifier. Je compte sur vous pour le faire. Et justement, et il dit d'ailleurs dans ce passage Jésus que toute l'Écriture se résume à ça. Donc si nous avons cette tournée d'esprit de trouver vraiment l'amour dans la parole de Dieu et que nous passons outre ce qui peut paraître choquant pour monter du côté du ciel, pour aller voir l'interprétation spirituelle qui dépasse l'interprétation littérale qui peut être choquante, eh bien, cette foule qui adore Dieu, eh bien, notre lecture se fera adoration du Dieu vivant. La véritable lecture est cette lecture qui nous amène à contempler Dieu dans la parole, et non pas à juger Dieu, etc., ou à nous laisser arrêter par le texte. Et je reviens ici sur ces anciens, ces quatre vivants. La véritable lecture de la Bible, bien sûr, comme vous l'avez vu, j'ai fait une introduction historique. Elle est utile pour, justement, au moins au début de notre apprentissage de la parole de Dieu, pour nous aider à ne pas nous laisser arrêter par ce qui est choquant. Il faut respecter nos réticences, Dieu respecte nos réticences. Et c'est pour ça qu'une étude historique du contexte peut nous faire comprendre certains passages difficiles, ou qui scientifiquement paraissent farfelus, que nous comprenions à quelle époque c'était écrit, que nous comprenions bien que Dieu prend les hommes où ils en sont, que Dieu, dans son mode d'action, était toujours... Dieu est toujours une personne qui manifeste un amour compréhensif, qui se met au niveau de celui qui l'aime. C'est ça le véritable amour. Et donc, les textes ayant été écrits il y a des millénaires, pour certains, même bien avant ce passage de l'Apocalypse, il est bien évident qu'il y a des limites scientifiques et même moraux. Enfin, des limites, pardon, morales, pas moraux. Eh bien, cette étude historique est nécessaire. Mais, comme je viens de le dire, elle n'est pas suffisante, car il nous faut monter du côté du ciel pour aller à la lecture spirituelle. Mais disons, cette approche historique nous permet de dépasser nos réticences pour justement nous tourner vers Dieu et trouver dans un passage une occasion de le louer. Je vous donne un exemple. Il y a dans le livre de Samuel un passage qui paraît terrible, où David fait un recensement et où Dieu punit David parce qu'il a recensé son peuple, et il lui offre des punitions toutes les unes plus terribles les unes que les autres, pardon. Donc, David choisit celle qui lui paraît la moindre, c'est-à-dire 3 jours de peste. Et des milliers de gens meurent. Alors que c'est très choquant, vous vous rendez compte, des milliers de gens meurent parce que David a décidé de faire un recensement. Maintenant, évidemment, si nous creusons un petit peu, à l'époque, il est tout à fait courant d'attribuer tout ce qui se passe à Dieu, alors que Dieu n'y était pas pour grand chose. Bon, voilà, quelque chose qui peut nous aider à dépasser le sens littéral, et le sens spirituel saute aux yeux. Eh bien, recenser, c'est un péché aux yeux de Dieu, parce que c'est faire des hommes un numéro. Et pour Dieu, nous sommes bien plus que des numéros, nous sommes uniques. C'est aussi une manière pour David de recenser ses troupes, de vouloir régler les problèmes par ses propres forces. Il fait le recensement de ses propres forces au lieu de compter sur Dieu. Vous voyez, ce petit exemple nous montre comment une lecture historique, disons, est un préambule à une interprétation spirituelle qui nous permet de voir dans chaque page de la Bible le message d'amour de Dieu. Eh bien, c'est cette lecture qu'il nous faut faire. Alors, continuons. Ici, nous parle des anciens des quatre vivants. Il est très important, quand nous lisons la Bible, de voir que le centre de la Bible, c'est les quatre vivants, c'est-à-dire l'Évangile et donc le Christ. Le Christ, lui-même le dit, c'est le centre des Écritures. Il nous faut vraiment lire chaque passage de la parole de Dieu avec le Christ en tête. Et là, je vais tout de suite aborder la fin. Quand un des anciens dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Notre méditation biblique doit être lavée aux vêtements de l'agneau, purifiée dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier ça. Le centre du message biblique, c'est que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils unique pour nous sauver. Et le Christ est mort sur la croix. C'est le message central de la Bible. Alors si nous avons ce message en tête, aucun passage de la Bible ne peut nous choquer. Parce que nous voyons que c'est comme une piqûre de rappel, ce sang de l'agneau. Dieu nous aime. Et donc un passage choquant ou cruel, comme dans le livre de Josué, où on extermine, etc., les gens au nom de Dieu. Mais c'est typique de l'époque. Dieu prend les gens où ils en sont. C'était une époque très violente. Mais c'est une manière de nous dire qu'il faut nous débarrasser du péché. Eh bien, une telle interprétation devient possible si nous gardons en tête que Dieu nous aime. et que c'est ça le véritable message, et que tout ce qui va à l'encontre de ce message à première vue dans la parole de Dieu, c'est le message humain qu'il faut décanter par la prière et par une étude historique sérieuse du contexte où le livre a été écrit. Eh bien, c'est comme ça que nous devons lire la Bible, avec le Christ et son sacrifice au centre. Ensuite, on vous parle des anciens. Il ne s'agit pas de lire l'Évangile seulement. C'est une grave erreur chez les catholiques de lire l'Évangile et de jeter aux orties le reste de la Bible. Parce que tout de même, ces anciens qui représentent les 12 tribus d'Israël, comment peut-on pleinement saisir la nouveauté du message du Christ si l'on ne pénètre pas dans l'attente qu'est l'Ancien Testament, dans la préparation qu'est l'Ancien Testament de ce message révolutionnaire qu'est le Nouveau? Parce que nous voyons pleinement la nouveauté du Nouveau Testament quand nous voyons les limites de l'Ancien Testament et son côté inachevé. Justement par la lecture que je viens de mentionner, où on voit le Christ comme centre de l'Ancien Testament de toute l'Écriture. Si nous ne lisons pas l'Ancien Testament, nous perdons la nouveauté que constitue le Nouveau Testament, et notamment l'Évangile. Et puis dans l'Ancien Testament, il y a aussi des passages magnifiques, qui lui, avec l'Évangile en son centre et le sang de l'Agneau en son centre, prennent une dimension évangélique et sont comme un deuxième Évangile, cet Ancien Testament lu de cette manière. Alors vous vous rendez compte de quoi on se prive? Et puis les anciens, c'est aussi les 12 apôtres. On déconnecte aussi souvent le reste du Nouveau Testament de l'Évangile, mais c'est pareil. Comment peut-on comprendre toute la portée de ce que représente le Christ sans lire les épîtres de saint Paul, toutes les conséquences de la grâce que le Christ nous offre? Justement, à quoi sert ce sang de l'agneau si nous ne lisons pas les autres textes du Nouveau Testament? Quelle erreur! Et ces anciens, c'est aussi la tradition. Il y a 2000 ans d'interprétation de la Bible de notre Église, notamment les pères de l'Église, ces premiers chrétiens qui avaient encore un contact assez direct avec les apôtres, soit directement ou à quelques générations près. Ils avaient encore cette tournure d'esprit. Justement, ces interprétations que je vous donne sont celles des pères de l'Église, cette lecture spirituelle. Eh bien, si nous laissons modeler par la tradition d'Église, aussi par ces dogmes qui sont comme des garde-fous, c'est comme ce sang de l'agneau qui nous permet vraiment de lire la Bible correctement avec le message central qui nous permet d'avoir les véritables lunettes, quel que soit le passage biblique, eh bien avec ces traditions de la Bible, nous sommes vraiment armés. Ces anciens, c'est aussi cette manière ancienne, traditionnelle de lire la Bible, très spirituelle, comme je le fais en ce moment. J'espère qu'elle est suffisamment spirituelle pour vous, mais vous voyez. Alors ensuite, une autre attitude importante. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Eh bien là, vous nous avons une attitude fondamentale pour la lecture de la parole. Il faut être humble devant la parole. Jean, quand on lui pose une question, dit « Je ne le sais pas, toi seul le sais, mon Seigneur. » Eh bien devant la parole, il faut vraiment être humble. Si nous sommes choqués, plutôt que d'avoir un jugement prétentieux avec notre mentalité du XXIe siècle, eh bien ayons l'humilité de reconnaître que c'est peut-être nous qui ne comprenons pas assez, qui ne sommes pas assez spirituels, et redoublons de prière. De même, étudions le texte, c'est son contexte historique, pour justement faire l'effort de nous mettre à la portée des auteurs humains, pour mieux saisir le message qu'il y a derrière, le message divin, plutôt que de juger avec notre mentalité soi-disant supérieure du XXIe siècle. Ayons cette réaction de Jean, cette humilité, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. C'est cette attitude humble devant la parole de Dieu et priante qui fait le succès de la méditation, qui fait que cette nourriture devient véritablement cette parole devient véritablement nourriture. Et enfin, je vous propose la dernière interprétation, qui ici est assez proche de l'interprétation littérale et anagogique, c'est l'interprétation intérieure, morale ou tropologique. Interprétation assez psychologique, soit en pensant à ce qui se passe à l'intérieur de l'âme de nos frères ou à l'intérieur de notre propre âme ou de notre cœur. Alors, voilà, moi Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer, « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Dans l'intérieur de notre cœur et de ceux de nos frères, il y a beaucoup d'hostilité à Dieu. Ces courants dont je parlais dans notre monde existent aussi en nous. Et quand nous voyons nos frères, nous pouvons penser qu'ils sont très fermés à Dieu et que visiblement, ils ne le rencontreront jamais. Mais si nous regardons du côté du soleil, si nous avons cette vision, si nous croyons que par la prière, la grâce de Dieu peut pleinement se déployer en nos frères, Alors, évidemment, nous les laissons à ces quatre anges, nous les laissons à leur liberté. Et parfois, qui va les conduire? Souvent, qui les conduira à un désastre, parce qu'une vie sans Dieu conduit souvent à une impasse. Mais avant, oui, de laisser nos frères livrer eux-mêmes, nous les marquons du sceau de notre prière et de notre amour, pour que justement, un jour, par leur expérience, et parfois par leurs échecs, ils se tournent vers Dieu. Donc notre rôle à nous chrétiens, c'est vraiment de marquer du sceau la vie de nos frères par notre prière et notre amour. Nous rendons présent Dieu dans leur vie, même s'ils n'en sont pas conscients, en montant du côté du soleil avec nos frères que nous accompagnons dans notre prière. Parce que c'est comme ça que Dieu veut agir. Hein, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises dans mes commentaires, dans les cassettes. Dieu veut sauver l'homme par l'homme, il envoie son Fils pleinement homme pour sauver l'homme. Tout, ainsi, il respecte la liberté de l'humanité. Et c'est comme ça que nous avons notre fonction. Nous sommes comme un prolongement de la liberté que Dieu offre à l'humanité en son Fils. Dieu agit en respectant la liberté de l'homme, en envoyant son Fils, et à la suite de son Fils, en envoyant son Église, c'est-à-dire nous-mêmes. En priant pour nos frères, nous offrons notre liberté à Dieu, et ainsi la grâce de Dieu peut travailler en le cœur des hommes, en respectant leur humanité et leur liberté. C'est là notre fonction. C'est ça marquer du sceau nos frères, avant qu'ils aillent à leur pleine liberté, qui sont les quatre anges ici. Et j'entendis le nombre de ceux, oui pardon, j'oubliais, mais dans notre propre vie aussi, il faut marquer notre vie du sceau de la prière, et alors notre vie va s'ouvrir de plus en plus dans tous ses aspects à la grâce de Dieu. C'est ça aussi, hein, monter du côté du soleil, c'est prier, se mettre à l'écoute du Seigneur, pour que toute notre vie petit à petit s'ouvre à Dieu. Nous devons marquer du sceau notre vie, pour que notre liberté de plus en plus épouse la volonté de Dieu. Alors, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, il était 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs avec des palmes à la main. Ayons la foi, sachons que dans le cœur de nos frères, il y a cette soif qui est représentée par les 144 000 élus, par tous ces gens de toute race. Nos frères sont beaucoup plus ouverts à la parole de Dieu que nous le pensons. Même si en apparence ils sont fermés, il y a au fond d'eux-mêmes une grande soif de Dieu dont ils ne sont peut-être pas conscients. Mais que cela nous fasse vraiment redoubler de courage. Il y a ces 144 000 élus en nos frères. Il y a cette plénitude du salut, cette plénitude de la soif de Dieu. Il y a vraiment une multitude de soif de Dieu dans nos frères. Il y a la quantité et la qualité qui est là, qui a soif de Dieu. Et notre rôle, par notre amour, notre témoignage en acte et notre prière, notre intercession, et parfois notre témoignage en parole quand le temps est mûr, eh bien c'est une manière de les amener devant le trône de Dieu, d'amener cette partie de nos frères qui est au fond de leur cœur, de l'amener vers le soleil. Et ils proclamaient donc d'une voix forte, donc ces gens, le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. C'est bien là la clé. Nous pouvons sauver nos frères par Dieu et par l'agneau. C'est-à-dire, au lieu de compter sur notre force, notre témoignage en parole, etc., ou même notre amour seul, nous devons penser que la prière est première et que notre amour accompagne cette prière. C'est pour ça que si nous avons cette idée en tête, enfin cette conviction en tête, eh bien même si les premiers signes ne sont pas encourageants chez nos frères ou qu'ils semblent bien indifférents à notre amitié, eh bien nous continuons. Parce que le salut est donné par Dieu et l'agneau. Et quand on dit le salut est donné par l'agneau, c'est-à-dire Dieu donne son salut par son Fils. Et son Fils, c'est par amour, c'est par ce sacrifice sur la croix, cet amour pleinement donné qu'il sauve l'humanité. C'est pas par la force. Il n'a pas voulu descendre de sa croix. Il a assumé l'amour jusqu'au bout, l'amour qui a souffert pour les autres. Nous-mêmes, nous devons dans nos prières vraiment souffrir pour nos frères, et nous devons dans notre amour accepter les rebuffades et les revers que nos frères parfois nous infligent. Mais nous ne baissons pas les bras, parce que c'est par le sang de l'agneau que le salut est offert. C'est par cet amour sacrificiel, par cet amour qui va jusqu'au bout, qui aime contre toute espérance, que seule la prière et l'intercession peut nous donner. Donc tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ce qui nous permet de ne pas nous décourager, justement devant parfois le manque de résultats visibles dans un premier temps, de notre prière pour nos frères, de notre effort de les amener à Dieu par notre amour, ou dans notre propre vie, de voir le manque de fruits que nous portons. Eh bien, c'est d'avoir le bon regard. Plutôt que d'avoir les yeux fixés sur ce qui peut paraître un échec, ayons les yeux fixés sur les quatre vivants et les anciens, et regardons du côté du soleil. Alors, effectivement, pour regarder du côté du soleil, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus, et ça commence par prier, méditer sa parole, méditer les écrits des anciens, l'enseignement de l'Église, avoir les yeux fixés sur le spirituel. C'est bien ça, hein, avoir cette lecture justement aussi spirituelle des Écritures. Si nous avons cette spiritualité, nourri par la prière et la méditation de la parole, alors nous verrons que ce qui peut paraître un échec, eh bien, en fait, est un travail préparatoire, à l'image de l'Ancien Testament qui prépare le Nouveau. Vous voyez comme toutes les interprétations se rejoignent. Eh bien, nous verrons plus loin, justement, comme voir le ciel au-delà de cette terre, l'interprétation analogique, et bien là, nous verrons plus loin que l'hostilité, que les échecs, hein, que nos propres défauts, si nous pensons à notre propre cœur et notre propre vie. Nous verrons l'action de Dieu qui agit lentement mais sûrement. Eh bien, cette vision qui permet d'aller plus loin que les échecs apparents, que les lenteurs apparentes, et qui justement font que nous serons patients et non pas impatients, eh bien, cette vision ne peut s'entretenir qu'avec la lecture des anciens des quatre vivants. Alors continuons, et par justement cette prière de louange à notre Dieu. Alors l'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Tous ces gens vêtus de blanc qui sont-ils, d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » De nouveau, cette attitude humble. Certes, les choses peuvent avancer lentement par rapport à notre propre vie, ou par rapport à la vie de nos frères que nous voulons amener à Dieu, que nous voulons voir abandonner leurs défauts. Eh bien, souvenons-nous que seul Dieu sait les choses. C'est Dieu qui agit à sa vitesse parce que Dieu respecte justement la liberté des frères. C'est pour ça qu'il veut agir par nous, par notre prière et notre amour. Mais agir en respectant la liberté des frères et notre propre liberté, c'est tenir compte des réticences qu'il y a en nos frères et aussi en nous, dont nous ne sommes pas forcément conscients. Dieu ne force pas les choses. Dieu agit de telle manière que quand nous dirons oui, c'est quand les temps seront mûrs pour que notre oui soit dit en pleine liberté. Notre oui ou celui de nos frères. Eh bien, ayons cette réflexion de Jean, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Donc, tout dépend de Dieu. À lui le rythme, à lui la façon dont il veut agir. Et nous, nous sommes là pour épauler l'action de Dieu en lui offrant notre amour, notre liberté, par notre intercession et notre témoignage de foi et d'amour. Mais nous ne devons pas forcer les choses, ce n'est pas nous qui fixons les temps. Alors l'ancien reprit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, et ils ont purifié leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Nous pourrons avoir tous ces gens, ces 144 000 élus dans le cœur de nos frères, nous pourrons avoir ces fruits infinis, nous pourrons amener tous ces gens à Dieu, nous pourrons avoir des victoires dans le cœur de nos frères ou dans notre propre cœur. Nous acceptons que la victoire ne peut se remporter qu'en lavant notre vêtement et en le purifiant dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire avec les armes du Christ, qui sont l'amour, la souffrance. Je ne veux pas dire qu'il faut faire exprès de souffrir, mais il faut accepter de prier pour nos frères, d'être peiné devant leur lenteur, mais que ceci nous fasse redoubler de prières et d'amour pour eux. Eh bien, c'est avec ces armes, celles du Christ, cet amour qui se mouille la chemise, dans la prière et dans l'action, eh bien, c'est par cet amour que nous sauverons nos frères et que nous nous sauverons nous-mêmes. Je veux dire par là que c'est pas nous fondamentalement, bien sûr, c'est le Christ qui, en nous, agit, parce que le salut de Dieu est offert par Dieu gratuitement. Mais notre collaboration est essentielle. Mais même notre collaboration doit être nourrie par le sang de l'agneau. Nous devons accepter les armes de Dieu pour amener tous ces élus, pour porter du fruit, 144 000 élus, pour porter un fruit plein. Eh bien, c'est en acceptant les armes de Dieu qui sont l'agneau, c'est-à-dire la prière et l'amour, et non pas la force, l'orgueil, l'impatience, la brusquerie. Non, c'est la douceur, c'est les béatitudes, hein, la paix, la douceur, les cœurs purs, la pauvreté d'esprit, ce sont ces armes de l'agneau et la prière. Eh bien, c'est ça le sang de l'agneau. qui pourra faire que nos défauts et nos frères, qui sont souvent si fermés à Dieu, vont pouvoir s'ouvrir. Et alors nous porterons un fruit à la hauteur des 144 000, un fruit plein, avec le nombre, la plénitude. Je tiens à répéter ici, si on veut être vainqueur de la grande épreuve, c'est-à-dire si l'on veut vraiment amener des gens à Dieu, si on veut porter du fruit dans notre vie, ce fruit qui fera que nous deviendrons de plus en plus parfaits jusqu'à ce que nous soyons perfection même dans le ciel, ce fruit qui fait aussi que nous amènerons des gens à Dieu tout en respectant leur liberté, eh bien c'est le sang de l'agneau. C'est d'apprendre de Jésus à aimer en nous investissant, en nous mettant à la portée des autres, en nous laissant concerner par eux et en priant, en sachant que c'est l'agneau, sa grâce, toute pure et toute efficace, mais toute douce et toute patiente, qui justement soutenue par notre amour, qui va être inspirée par le sang de l'agneau, cet amour qui se met à la place des autres, qui se sent concerné, eh bien c'est cette prière portée par notre amour, nourrie par justement notre prière. Vous voyez, la prière est ce qui nourrit notre amour, qui lui-même notre amour appuie notre prière pour nos frères ou pour nous-mêmes, c'est-à-dire nos efforts, si c'est par rapport à nous-mêmes, eh bien, tout ça, eh bien, c'est vraiment ça qui va apporter la victoire. Alors, je reviens sur cette notion d'effort. Nos efforts, dans notre propre vie, c'est pareil. Nos efforts ne sont sanctifiés que dans la mesure où nous les lavons dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, nos efforts, par eux-mêmes, ne peuvent pas grand-chose et nous amènent au découragement. Mais si nos efforts sont nourris par la prière, soutenus par la prière, alors oui, ils sont comme sanctifiés par le sang de l'agneau et ils porteront du fruit parce que ils seront le prolongement et seront comme un accélérateur de l'exaucement de la prière. Et alors nos défauts vont fondre comme neige au soleil avec le temps, et que de même que nos frères, par notre prière et notre action qui vient aider la prière, nous accélérons l'exaucement de notre prière. Eh bien, les gens vont se tourner vers Dieu. Oui, c'est ça. Vraiment, laver notre vêtement dans le sang de l'agneau, c'est d'accepter les armes de Dieu, qui sont comme concentrés et illustrés par Jésus sur la croix. Aimer et prier, plutôt que d'agir par la force, comme les grands de ce monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors j'espère que vous avez vu les quatre degrés d'interprétation, interprétation littérale et historique, qui vous permet d'avoir une bonne vision du texte et de comprendre certaines difficultés, et puis après qui vous ouvre la porte, qui vous conduit jusqu'au seuil de l'interprétation spirituelle, qui se compose de trois degrés, allégorique, anagogique, tropologique ou moral. Alors, il n'est pas question de toujours appliquer toutes ces clés. C'est comme je le dis, hein, comme le dit Jean, c'est toi qui le sais, mon Seigneur, qu'il dit à l'Ancien, c'est l'Esprit qui guide, mais ayons quand même présent à l'Esprit ces clés, parce que quand inspiré par l'Esprit, nous avons une interprétation, c'est très bien. Essayons de voir si l'Esprit ne peut pas à travers ces clés nous enrichir un peu plus. Après, c'est nous qui voyons si nous forçons le texte ou pas. Mais disons, c'est intéressant d'avoir tous ces degrés d'interprétation qui sont nourris par les anciens, par la tradition de l'Église. Alors maintenant, je vous propose, si vous voulez bien, de prier. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, apprends-nous à lire ta parole dans l'Esprit. Oui, Esprit Saint, rends-nous dociles à ta parole, rends-nous dociles à ta volonté. Oui, rends-nous dociles à ton esprit de guide. Oui, guide-nous. Ô Esprit Saint. Apprends-nous, Seigneur, à lire ta parole comme une nourriture, à l'actualiser par une interprétation spirituelle, et apprends-nous à être humbles devant ta parole, même quand nous ne comprenons pas. Oui, Seigneur, apprends-nous cette humilité qui consiste à ne pas juger, mais à voir en chacune des pages ton amour pleinement manifesté dans le sacrifice de ton Fils. Oui, que ce soit ainsi que nous lisions ta parole. Et Seigneur, conscient du rôle que tu nous donnes, oui Seigneur, nous te prions pour que tu fasses de nous des êtres aimants et des êtres priants, pour que nous amenions ces 144 000 élus, tous ces peuples à toi. Oui Seigneur, fais de nous des messagers, fais de nous des anges, parce que c'est bien le sens du mot ange. Oui, fais de nous des anges, des messagers de ton amour et de ta parole. Et pour ceci, donne-nous amour, humilité et esprit de prière. Et c'est maintenant, Seigneur, que nous commençons. Nous te confions des gens qui nous tiennent à cœur et qui sont loin de toi. Nous te demandons de travailler en eux, par ta grâce, et nous te demandons de nous aider à les aimer, pour accompagner ce travail de grâce que nous venons de lancer par notre prière. Ô Seigneur, apprends-nous que le centre de la foi, d'avoir une relation avec toi, Jésus. Oui, Jésus, et par toi, communie à la vie du Père. Ô Seigneur, nous voulons t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Oui, d'abord en te découvrant dans ta parole. Alors j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute. Alors, je voulais apporter un petit complément, en fait. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans l'interprétation allégorique, mais je faisais allusion aux anciens en disant que c'était l'Ancien Testament et aussi qui représentait le Nouveau Testament. Bah, oui, ça vous a pas paru peut-être surprenant, mais en fait, il faut savoir que dans d'autres passages d'Apocalypse, on donne le nombre. Ils sont 24, 12 et 12. Donc 12 comme les anciennes, comme les 12 tribus d'Israël, donc ça symbolise pleinement l'Ancien Testament, et 12 comme les 12 apôtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament, qui, hormis l'Évangile, hein, les apôtres symbolisant le reste du Nouveau Testament. C'est pour ça que l'interprétation allégorique a pu donner lieu à cette interprétation qui est que la Bible c'est l'Évangile en son centre, mais c'est aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qu'il nous faut lire. Voilà, je voulais préciser ça, hein, le nombre des anciens étant 24, 12 et 12.
Free audio post-production by Alphonic.com.